Il est l'heure d'ouvrir la parenthèse de Laurence Luret, parenthèse philosophique. Bonjour Laurence.
Bonjour Patricia, bonjour à tous et à toutes.
Ce matin, vous recevez l'historien Alain Corbin pour nous parler du silence.
Et oui Patricia, ces dimanches, on prend le temps de voir les choses autrement, de faire une pause loin du chaos du monde. Bonjour Alain Corbin.
Bonjour.
Vous êtes l'un des grands historiens français. Votre œuvre a beaucoup exploré l'histoire des émotions. Et cette fois-ci, vous publiez une histoire du silence. Alors dans nos sociétés de téléphonie mondialisée, de buzz permanent, avons-nous oublié le silence, Alain Corbin ?
Je ne suis pas compétent pour ça, je n'ai pas fait d'enquête sur le présent, mais ce que je peux dire, c'est que le silence est un objet d'histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été apprécié de la même façon. Il a été considéré très longtemps comme une richesse, qui favorisait l'intériorisation, l'introspection, le retour sur soi, la prière, etc. Les romantiques y ont trouvé aussi d'autres charmes, c'était considéré comme une richesse. Et puis voilà que, comme vous le dites, c'est perdu. En partie, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui cherchent le silence. Je ne dis pas l'absence de bruit, hein, parce que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit.
Alain Corbin, le silence réside en nous, paradoxalement, écrivez-vous. Vous parlez de citadelle intérieure que les écrivains et les savants ont cultivée durant des siècles. De quand date notre rupture avec le silence, selon vous ?
Je ne sais pas. Je serais tenté de dire vers 1950, où beaucoup de choses changent en 1950 dans toute la société. Mais inversement, quand la richesse du silence est-elle apparue, ça c'est très difficile à dire, parce que même les philosophes de l'Antiquité l'ont loué très, très largement, mais ce n'est pas ma spécialité. Je me suis cantonné, disons, au silence du XVIIe siècle, et la différence entre le silence du XVIIe siècle et le silence du XIXe.
Et cette différence, elle consiste en quoi, entre ces deux siècles ?
Pour quelqu'un du XIXe siècle, comprendre le silence du XVIIe, de Soligny-la-Trappe où les moines se taisaient, par exemple. Chateaubriand a tenté cette aventure. On lui avait demandé d'aller écouter le silence du XVIIe siècle, mais lui, c'était un romantique, avec des bruits de vent, les cheveux hérissés au bord de la mer. Donc, il s'est trouvé face à un silence pesant, le silence qui permet la prière du XVIIe siècle, et il a été mal à l'aise. Donc c'est un exemple pour vous dire qu'il y a des gammes de silence qui sont différentes.
Alors c'est quoi au juste le silence ? Difficile, vous allez me dire, de le faire écouter à la radio, voici néanmoins une tentative. Ne réglez pas votre poste, vous êtes bien sur France Inter avec mon invité, l'historien Alain Corbin. Silence de la nature troublé par un cri, en l'occurrence un cri d'aigle. Est-ce que, Alain Corbin, tout compte fait, le silence n'existe pas ?
Non, le cri de l'oiseau ne trouble pas le silence. Il le révèle, paradoxalement.
Il le fait ressortir.
Ça a été beaucoup souligné, en particulier par David Thoreau, qui est un Américain, et qui voyageait dans les bois, au bord des étangs, etc. Et pour lui, le silence était la qualité majeure de ce que l'on peut ressentir dans la nature. Mais il précise, pour revenir à ce que vous disiez, que le silence ne peut être révélé que par des petit bruit. Alors, il ne pensait pas aux aigles, hein, mais plutôt au croassement de la grenouille, au bruit d'un insecte, peut-être même d'un moustique suffisait à révéler le silence et sa profondeur. Parce que pour lui, c'était évidemment la profondeur du silence dans la nature qu'il quêtait.
Ça veut dire, Alain Corbin, que le silence a une texture particulière selon le lieu où on se trouve ? Il y a des lieux plus propices que d'autres ?
Oui, mais surtout, la variété des textures du silence n'ont pas toujours été analysées. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, c'était surtout le fait de préparer l'écoute de Dieu, par exemple, de la prière, etc. Ce sont les romantiques qui, le plus nettement, ont souligné la diversité des textures du silence. Et ça, c'est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, que le silence n'est pas un, mais qu'il a des textures différentes selon les lieux, selon les moments, selon les émotions, selon les âges, etc.
Alain Corbin, il reste aujourd'hui un domaine où silence est celui de l'amour, dites-vous. L'amour oui. Est-il silence ?
Alors, les symbolistes ont beaucoup souligné ça. Hein. C'est quelque chose d'essentiel. L'idée que la profondeur de l'amour ne se calcule pas selon la parole, mais selon les silences vécus ensemble. Et en particulier, lors de la rencontre, le premier silence. Maeterlinck dit que ce premier silence pourra durer toute la vie. C'est en quelque sorte la condition nécessaire de la durée de l'amour. Parce que la parole « je t'aime », on l'a dit chacun, si vous voulez, à
donc,
beaucoup.
Donc tous mais... ceux qui textotent des « je t'aime » à longueur
oui.
de journée, ça sert à rien, c'est ça?
Mais une rencontre de silence, et il n'est pas le seul, hein, Maeterlinck, à avoir dit ça, Peggy aussi. C'est vrai aussi de l'amitié. Deux amis qui marchent ensemble en silence, c'est peut-être plus profond que deux amis qui bavardent.
Mais ça peut aussi être, Alain Corbin, le silence de la haine, comme dans le film Le Chat, on se souvient, entre Signoret et Gabin.
Oui. Ça, c'est très
fort. Comment fait-on la différence ?
Alors, c'est-à-dire que le silence de la haine, il est multiple, souvent. D'ailleurs, il est multiple. De Thérèse Desqueyrou de Mauriac, il y a une dizaine de silences de haine. Ça conduit au crime. Hein. Mais ce silence, bien, il s'installe peu à peu.
Et donc le silence de la haine serait quoi ? Épais ?
Oui, il est épais. Non, mais il est surtout, je sais pas, permanent, atone, en quelque sorte, si je puis dire ça. Mais ça peut conduire au crime. Ça peut conduire au crime parce que c'est la personne qui le subit le ressent comme une agression.
Oui, là, il n'y a plus de partage. Alain Corbin, pour conclure, quel est votre silence préféré ? Est-ce que c'est celui de l'aube, du crépuscule ou celui du dimanche ?
Ah, non. Vous me posez une question que je ne me suis jamais posée. Je ne sais pas si c'est lié à la durée du jour. Je dirais peut-être que c'est le silence qui suit la musique. C'est peut-être là qu'il y a une douceur particulière du silence. Ça a souvent été dit, ça.
Merci Alain Corbin pour ces quelques minutes en votre compagnie. L'histoire du silence, c'est le titre de ce très beau livre qui se lit d'ailleurs comme une petite musique intérieure, comme un poème.
Comme beaucoup de livres d'Alain Corbin, si je puis me permettre.
Absolument. Il est publié aux éditions Albin Michel et puis c'est pour tous ceux, bien sûr, qui veulent faire un break, Patricia.
Merci Laurence Luret, à tout à l'heure pour le Journal des idées.
Oui, je vous parlerai du dernier phénomène d'édition qui cartonne en philosophie.
France Inter, il est 7h30.